On continue, je vous propose le tour de table. Et puis Pierre Chabard, édition de la Villette.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'interviens, comme l'a dit Laurent, comme responsable éditorial des éditions de la Villette, qui font certainement figure dans cette assemblée, dans cet écosystème de la bibliodiversité, comme une sorte de dinosaure, comme une sorte de très 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 vieux vertébré, puisque, comme l'a rappelé Laurent, c'est une maison d'édition qui certes publie beaucoup de livres, je y reviendrai, mais qui n'est absolument pas présent sur Internet, on n'a pas de site Internet, et aucune de nos productions, à part peut-être une revue dont je parlerai tout à l'heure, qui publie certains PDF d'articles en ligne au bout de 10 ans, on est absolument invisible sur Internet. Il y avait eu une page Facebook en 2013, mais qui n'est plus du tout implémentée depuis. Voilà, donc cette maison d'édition a été fondée en 1981 par deux enseignants-chercheurs de l'école d'architecture de Paris-la-Villette. C'était des enseignants sociologues, François Lautier et Jean-Paul Flamand. Cette maison d'édition a été toujours dirigée par un enseignant-chercheur de l'école. Ça a d'abord été des sociologues, puis à partir de 1998, par un historien, Marc Bédarida, qui a dirigé les éditions pendant 18 ans et que je remplace depuis quelques jours, donc depuis le début du mois de septembre. Voilà, donc je prends la suite de ce collègue qui a énormément œuvré dans cette maison d'édition, donc qui a un catalogue de plus de 250 titres, dont 180 depuis la prise de fonction de Marc Bédarida, la moitié étant financée par l'école, hein, et l'autre en cofinancement. Donc c'est un acte de générosité budgétaire assez considérable pour l'école d'architecture de la Villette. Hein, c'est, je pense, le deuxième plus gros budget de l'école après le budget voyage. C'est un budget qui est consacré à publier des auteurs qui ne sont pas forcément les enseignants de l'école. Donc c'est on est tout à fait ouvert à tous les auteurs des autres écoles d'architecture, mais aussi bien au-delà. Donc à l'heure où les écoles sont assez enclines à consacrer des budgets importants à la communication, au marketing de leur propre institution, je trouve ça assez remarquable, cet effort de financer la fabrication d'à peu près 5 à 6 livres par an. Hein, donc c'est essentiellement des livres papier. Dont les manuscrits sont validés par un comité de lecture composé d'enseignants-chercheurs de l'école et d'autres institutions. Ces livres se répartissent entre 7 ou 8 collections. Bon, là, je vais peut-être pas vous les présenter en détail, mais j'ai amené quelques exemples de ces collections. Et ces livres sont diffusés nationalement et internationalement, exclusivement en librairie. C'est un très ancien monde, hein, mais en librairie par Interforum, donc un gros diffuseur-distributeur. Donc, comme je disais, pour l'instant, les éditions de la Villette n'ont pas de stratégie d'open science. C'est un univers que je découvre, donc je suis là un peu en candide, hein, devant vous. Plus pour parler de mon expérience éditoriale plus traditionnelle. Mais évidemment, ça fait partie des sujets sur lesquels les éditions de la Villette devront prendre position très prochainement. On a deux, voire trois revues qui sont publiées par nous. Une revue dont on a publié les premiers numéros, puis sont partis chez un autre éditeur, c'est la revue Marne, la revue de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui est une revue qui a une périodicité assez lente et qui est plutôt une revue documentaire qui publie des textes importants sur l'architecture, la ville et le paysage, mais dans une rythmique plus lente. Et puis on a les cahiers de l'école de paysage de Blois, dont on vient de sortir le numéro 17. Alors là aussi, c'est une revue papier qui est diffusée en librairie. Et puis les cahiers, ça s'appelle les cahiers Rameau. C'est le réseau de recherche sur les métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Donc c'est un réseau qui est piloté par un des laboratoires de l'école de la Villette, le LET, auquel Laurent Devime a contribué. Alors ça, c'est une revue aussi papier, mais donc c'est celle-ci dont on trouve les PDF des premiers numéros sur leur site, sur le site du labo, je pense, du LET. Voilà. Alors, avant de m'occuper des éditions de la Villette, et vraiment ça fait trop peu de temps pour que vraiment je développe là-dessus, effectivement, j'ai co-fondé et co-dirigé avec deux camarades une revue de critique d'architecture qui s'appelle Criticat. On a fondé cette revue en 2007, le premier numéro est sorti en 2008, et on a sorti 20 numéros en 10 ans, donc 2 numéros par an. On a publié une centaine d'auteurs, plus de 2500 pages, et on tirait à peu près à 1200 exemplaires. Donc c'est une revue qui a une certaine diffusion dans le milieu architectural. C'est une revue qui ressemble un peu à sur le plan de son statut, à celle de mon collègue, puisque c'était une revue associative, non lucrative, qui était animée par des bénévoles qui étaient quasiment tous titulaires d'un poste de maître de conf ou de professeur dans les écoles d'architecture. Donc ce qui nous donnait un peu de liberté de temps pour pouvoir produire cette revue qui, par ailleurs, était volontairement coupée de toute institution privé ou public. Donc on ne touchait aucune subvention ni du public ni du privé. Et donc c'était pour nous la garantie, c'est du militantisme, c'est des convictions. On disait que pour produire un discours critique sur l'architecture contemporaine et avoir une véritable liberté éditoriale, il fallait qu'on garde une totale indépendance financière de la revue qui n'était donc financée que par ses lecteurs. Donc pour fabriquer le premier numéro, on a fait une souscription. Et puis ensuite, la vente des numéros a permis de financer la suite. Donc c'est une revue un peu à cheval entre le privé et le public, une revue associative, mais qu'on a conçue comme une sorte d'espace public de réflexion, de critique et de production de connaissances sur l'architecture contemporaine. Par des travaux d'enquête assez approfondis qui nous prenaient souvent beaucoup de temps, qu'on menait en parallèle de nos activités d'enseignement et de recherche, qui nous prenaient aussi beaucoup de temps à écrire. Donc on était très exigeants sur l'écriture et sur la qualité de l'écriture de nous et des auteurs qu'on publiait. Oui, parce que c'est aussi une revue où on écrivait nous-mêmes. Ça se fait plus, ça, de diriger une revue dans laquelle on écrit. C'est mal vu par les agences d'évaluation. Nous, au contraire, on considérait qu'on faisait une revue avec nos convictions et notre manière de voir le monde, et que c'était à nous de produire en grande partie le contenu qu'on publiait. Et donc, alors, cette revue, j'en parle au passé parce qu'on a décidé de stopper sa publication en 2018 parce que voilà, on avait toujours des lecteurs, mais nous, on commençait un peu à s'essouffler, à sortir deux numéros par an à un rythme soutenu. On avait envie de faire d'autres choses, et puis moi, j'ai maintenant d'autres fonctions. Mais pendant 10 ans, cette revue, on a essayé d'en faire une sorte de courroie de transmission entre la recherche universitaire et le débat architectural contemporain. Et ça, c'est un des aspects peut-être de notre discussion, c'est le fait que l'open science, c'est super pour effectivement fluidifier les contenus à l'intérieur du monde scientifique, du monde académique, mais c'est aussi très important aussi pour décloisonner le discours, les discours disciplinaires, et de les resituer dans la cité, dans un débat et dans des enjeux contemporains. Et donc, C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on a, en 2008, quand on a fondé la revue, qu'on a décidé d'en faire une revue papier, paradoxalement. C'est-à-dire que je pense que il existait déjà des plateformes avec revue.org, etc. Mais ce n'est pas du tout des plateformes sur lesquelles vont les architectes praticiens, les professionnels de l'architecture. Ce n'est pas là qu'ils vont s'informer sur leur discipline. Ce n'est pas là qu'ils vont lire. D'un autre côté, les webzines d'architecture, d'actualité architecturale, où les architectes vont glaner des informations, souvent c'est les contenus sont assez peu approfondis. C'est plus des revues d'actualité, hein, qui publient souvent les dossiers de presse des bâtiments qui sont inaugurés, qui sont sans beaucoup de plus-value analytique, critique. Et donc, il nous a semblé qu'une revue papier, un objet, on est architecte, hein, on aime manipuler la matière, la transformer la matière en objet, avec une plus-value conceptuelle, intellectuelle, et donc de publier un livre, ça nous a semblé très important et très pertinent par rapport à ce projet éditorial en particulier, à savoir l'idée de toucher aussi un public qui n'est pas forcément universitaire, un public de professionnels. Voilà, j'ai peut-être été un peu long.
Non, ça va, je pense que ça mérite aussi d'être repris tout à l'heure.
Je reviendrai sur deux, trois points plus tard.
Merci Pierre. Et puis là encore, moi je retiens l'enjeu, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir derrière, sur ce que c'est que le travail éditorial, parce qu'il me semble que le mettre en avant, ça veut dire aussi réfléchir à qui le finance, qui le prend en charge. Alors que parfois on parle de l'open, et je pense à l'open data à un moment donné, comme si c'était une magie ou un mirage qui réglerait tous les problèmes. Donc je trouve que c'est bien d'insister sur ce travail éditorial. Et puis l'autre volet qu'on retrouvera probablement avec Nadine Roudil tout à l'heure, c'est cette question d'un espace public de débat et de critique. Et c'est-à-dire que en quoi on sort d'une seule logique disciplinaire, avec des confrères, avec des collègues, mais à qui est-ce que l'on s'adresse, à qui est-ce que l'on cause. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, et je laisse la parole à Frédéric Pouzin.